Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Metin Arditi. Ce soir, Metin Arditi, essayiste.
Bonjour Metin Arditi.
Bonjour Jérôme Clément.
Alors, l'écriture. Metin Arditi, nous sommes avec vous depuis lundi dernier, c'est notre troisième émission ensemble. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes un écrivain francophone, d'origine turque, né à Ankara, vivant à Genève, en Suisse, et passant pas mal de temps à Paris, en tout cas écrivant en français. Et nous avons lundi exploré votre univers géographique, qui fonde votre identité. Hier, nous avons parlé de votre vie avant l'écriture, celle d'un ingénieur physicien, d'un homme d'affaires, qui a réussi, créateur de fondations pour la musique, pour les enfants. Et aujourd'hui, nous arrivons enfin, mais on en a déjà parlé, c'est pas un début, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'écriture, qui est aujourd'hui la vôtre, puisque vous êtes devenu écrivain à 50 ans, et avec un petit livre tout à fait étonnant sur La Fontaine, Mon cher Jean, une lettre à La Fontaine, de la cigale à la fracture sociale. Vous avez écrit d'ailleurs deux livres sur La Fontaine, mais deux petits livres, mais qui sont très denses. Alors, je vous propose, en guise d'introduction, de nous lire une fable que vous avez choisie.
Oui, c'est la fable du héron.
Alors, on vous écoute, Metin Arditi.
Un jour, sur ses longs pieds, allé je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère, la carpe, y faisait mille tours, avec le brochet, son compère. Le héron en eût fait aisément son profit, tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair. Et pour qui me prend-on ? » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, oh Dieu ne plaise ! Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons.
Très bien, merci. Alors, La Fontaine, La Fontaine. Je vous cite. C'est ainsi qu'un Turc s'est mis à lire les fables de La Fontaine. Il a d'abord aimé, puis a été déçu, s'est senti trompé pour enfin se retrouver nez à nez avec l'exception française, son charme et son attachante extravagance. Alors, pourquoi La Fontaine et pourquoi cette fable? Pourquoi ce choix?
Alors, La Fontaine a joué dans ma vie un rôle énorme. Énorme parce que, nous en parlions hier soir, j'ai pendant longtemps été homme d'affaires, j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai pas tout de suite gagné royalement ma vie, loin de là. Et lorsque j'ai commencé à la bien gagner, j'ai eu très peur de tomber dans la vanité. Je suis quelqu'un de très vaniteux. Heureusement, j'en suis conscient.
C'est bien. Ce n'est pas toujours le cas.
Non, il faut lutter. Je ne veux jamais penser que j'en suis conscient pour toujours. Et la lecture des fables de La Fontaine a été pour moi un bienfait. Pendant des années, j'avais sur la table, sur mon bureau, mais là où je travaille, le recueil des fables de La Fontaine. Et j'ouvrais chaque jour le livre des fables au hasard, et j'en lisais deux ou trois, et je lisais toujours une fable avant de prendre une décision importante. Et je peux vous dire que l'apologue de la fable du héron, les plus accommodants, ce sont les plus habiles. Je me la suis dite, cette phrase, allez, 100 fois, au moins.
Au moins.
Au, oui. moment de au, signer moins. Un, au moment de signer un accord. Au moins.
Les plus accommodants, ce sont les plus habiles.
Absolument.
Conseil aux hommes d'affaires, par Metin Harditi. Vous avez aussi une autre fable que vous citez beaucoup, on ne va pas toutes les prendre, hein, je vous rassure, c'est l'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune.
Oui.
Mais c'est un peu la même idée, quoi. C'est-à-dire que le destin peut retourner la fortune.
C'est un peu la même idée. Là, je trouve que La Fontaine exagère un petit peu. Parce que, effectivement, lorsque le fabuliste dit, au fond, quand, en se moquant de l'homme d'affaires, quand il réussit, c'est son talent. C'est la faute des autres. C'est la faute à pas de chance. C'est exagéré parce que quand même, quand on réussit, il arrive aussi que l'on réussisse parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on a pris des risques, parce que ça a bien marché, parce qu'on a eu des idées astucieuses. Tout cela, ça vient pas tout seul. Donc, la réussite ne vient pas tout seul. Donc là, il exagère. Et du reste, mon analyse de cette fable, c'est cette fable-là qui me laisse un peu mal à l'aise avec La Fontaine.
Mais vous êtes très sévère envers lui. Vous dites que c'est un flatteur, qui fait l'éloge du cynisme, que finalement la résignation, c'est une morale de la résignation et de la flatterie, qu'il apprend à courber l'échine. Et vous le comparez à La Rochefoucauld en disant que le vrai moraliste, c'est La Rochefoucauld, oui. C'est pas La Fontaine.
Écoutez, ils n'ont pas vécu à la même époque. Je lisais il y a très peu de jours les mémoires de Saint-Simon où il décrit combien à la cour de Versailles chacun était terrorisé sous le regard du roi.
Oui.
Comment ce regard allait-il tomber sur Pierre, Paul ou Jacques ? Et donc, c'est vrai que lorsque j'ai écrit ce texte sur La Fontaine, je n'ai pas été toujours très équitable avec lui. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi que...
Vous êtes à la fois admiratif et cinglant.
C'est-à-dire, je l'aimais tellement, n'est-ce pas ? Et je continue de l'aimer tellement, et je lui devais tant que, de temps en temps, je me laissais aller à une critique exagérée.
Okay. Il y a des phrases de lui, il y en a une que vous citez, que j'ai relevée. « L'envie de vous plaire, il écrit à Monseigneur, je crois que c'est le frère du roi, me tiendra lieu d'une imagination que les ans ont affaiblie. » Évidemment, voilà. c'est pas très glorieux. Hein.
Mais c'est ça, c'était terrible.
Oui.
Il faut dire les choses, n'est-ce pas ? Cette vie de cour était une vie épouvantable, puisque, au fond, chacun y perdait son libre arbitre. On était tributaire du caprice royal.
Alors, vous le définissez d'une formule. Vous avez le sens de la formule dans votre livre. J'en ai relevé plein. Je préfère un carnet de citations de Metin Harditi. Vous le résumez d'une formule qui est quand même assez forte. Tu mépriseras ton prochain comme toi-même.
Ah oui, c'est exagéré.
Ah non, vous avez dit ça. Vous
ah, c'est possible. Ah
ouais, La Fontaine, au fond, c'est ça. Tu mépriseras ton prochain comme toi-même. Donc là, vous y allez fort. C'est pas faux, mais enfin, c'est
L'esprit de cour, n'est-ce pas ? Oui. C'est l'esprit de cour.
C'est-à-dire que à la fois, vous l'admirez, vous vous en servez beaucoup pour les affaires, d'ailleurs. C'est ça, comme vous l'avez dit en lisant la fable du héron. Mais vous êtes très critique sur le reste.
Écoutez, il y a une chose que dont je n'ai pas pris conscience à cette époque, et qui est la suivante. La Fontaine écrit comme un poète du XVIIe, et il est peut-être le plus grand poète du XVIIe, et peut-être le plus grand poète de toute la langue française. Mais ses idées viennent d'abord de son expérience à la cour, mais également, il va les puiser chez les anciens, chez Ésope.
Oui.
Et donc, il y a là, en quelque sorte, deux extrêmes qui se retrouvent. D'une part, cette cour de Versailles très brillante, et d'autre part, les pauvres malheureux de l'époque antique, n'est-ce pas, qui devaient courber les chines.
Oui.
Et cette façon de suggérer toujours d'être en retrait, ce n'est pas très glorieux, mais c'est, selon les circonstances, d'une grande sagesse.
Oui. Il y a eu cette année un livre d'Éric Orsenna sur La Fontaine, dont on a beaucoup parlé, qui a eu beaucoup de succès. Éric Orsenna a d'ailleurs fait une série d'émissions aussi de radio sur le sujet. On voit, quand on étudie la vie de La Fontaine aussi, que c'était un homme assez malheureux, finalement, et qui est un solitaire, qui n'a pas bien réussi sa vie personnelle, affective, qui a été toujours à court d'argent. Enfin bon, ça rejaillit aussi sur son âme. Enfin, peu importe, ça, c'est un peu accessoire par rapport à notre sujet. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au fond, vous êtes entré en littérature avec La Fontaine. Et ce qui m'a... Donc par les essais, en fait.
Absolument.
Par les essais.
Quatre essais d'abord. Oui.
Quatre essais, oui. Alors après La Fontaine, on y a consacré la place du roi, parce que c'est le premier. Vous avez écrit le mystère Machiavel. Et là aussi, moi j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt, parce que vous avez une approche de Machiavel qui est complètement novatrice, puisque vous le comparez finalement avec les évangiles.
Oui.
Et votre approche des évangiles, je vous cite, ces deux textes, dans leur souci d'aider l'homme qui accepte d'être responsable de son prochain, me semblent non pas s'opposer, mais se retrouver, peut-être même se compléter. Alors évidemment, moi, j'ai pas du tout pensé qu'en lisant Machiavel aux évangiles. Mais bon, j'étais sans doute trop peu imaginatif. Mais Machiavel, ça vous a apporté beaucoup aussi.
Énormément. C'est le surmoi, Machiavel. C'est l'homme qui abandonne son propre salut, donc le prince abandonne son propre salut pour le bien de tous. Mmh. Vous savez qu'on cite toujours Machiavel dans Le Prince, disant « La fin justifie les moyens ». Cette phrase n'existe pas.
Bah, oui.
Ni dans Le Prince, ni dans L'Art de la Guerre, ni dans le discours sur la dernière décade de Tite-Live, Machiavel n'a jamais écrit ce mot. Mais Machiavel a une quantité de commentateurs qui n'ont jamais lu Machiavel qui est effarante.
Oui.
Et lorsque Machiavel dit « Il faut, donc, au XVIe siècle, il faut appauvrir les riches parce que les richesses crée la jalousie, et la jalousie crée les troubles, et il faut armer le peuple. » Machiavel dit ça. Qui le dit? Qui reprend ça? Personne. Mais il le dit, noir sur blanc. Donc, pour lui, trahir, c'est toujours pour une cause qui est d'un ordre supérieur à la trahison. Et cette cause, c'est toujours le bien de tous. Toujours.
L'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier.
Toujours. Et pour ça, on peut l'intérêt particulier, oui, et le salut de l'âme du prince.
Et pour ça, on peut utiliser la ruse. Vous faites beaucoup allusion
à... Bien sûr. Alors, la ruse, en français, ce mot est traduit par la ruse, mais dans le texte italien d'origine, qui est écrit en florentin, c'est-à-dire quasiment en italien d'aujourd'hui, c'est l'astuce, n'est-ce pas? Donc, c'est pas diabolique, c'est tout simplement imaginatif. Voilà.
Machiavel, vous le dites souvent, Machiavel dérange.
Oui.
Machiavel dérange, justement parce qu'il a une approche de la société qui est...
Machiavel dérange.
Et le pouvoir, surtout.
Moi, je crois que Machiavel dérange parce que, en réalité, si on le lit objectivement, il met la barre tellement haut qu'elle est inatteignable. C'est ça qui dérange chez Machiavel. Il y a un appel au surmoi qui est insupportable au commun des mortels. Mais le prince de Machiavel est quelqu'un qui va absolument jusqu'au bout pour le bien de tous. Toujours pour le bien de tous.
Vous définissez là ce que souhaite notre président Emmanuel Macron être, en fait. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout pour le bien de tous. Remarquez, c'est l'idéal de beaucoup d'hommes politiques. Mais je dis ça parce que...
Je ne prononcerai pas sur son goût du sacrifice.
Ah, ça c'est un autre sujet. Et son goût pour Machiavel, il est connu, qu'il reste un maître d'ailleurs de la pensée politique. Machiavel.
Oui, mais il faut voir aussi comment il faut voir comment il est lu. Et moi, quand j'ai lu beaucoup de commentateurs de Machiavel, je veux dire, tous les grands commentateurs, je les ai lus. Il suffit de lire Raymond Aron pour comprendre quel est son embarras devant Machiavel. Et ce n'est pas le seul. Mais j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est de découvrir Machiavel lorsque j'étais étudiant aux États-Unis. Et que mon professeur de stratégie à Stanford, qui s'appelait Henry Eyring, qui est aujourd'hui, je crois, numéro 2 de l'Église mormone, était en fait un homme d'Église. Il était professeur et il était responsable de l'Église mormone du campus de Stanford. Et donc j'ai eu avec lui un regard sur Machiavel qui était totalement libre de tous les réflexes européen. C'est un homme qui a vu Machiavel comme un maître de la pensée, disons du management, voilà, que ce soit le management d'un État, que ce soit le management d'une grande organisation. C'était un homme qui savait fixer des objectifs et définir la manière et l'écoute pour les atteindre.
Alors Machiavel après La Fontaine et ensuite Nietzsche. Alors un petit essai sur Nietzsche, une centaine de pages à peine, non 80 pages même. Alors Nietzsche, bon si je vous ai bien lu, c'est un petit essai qui vient après la mort de vos parents. Et ce qui vous intéresse chez Nietzsche, c'est la consolation.
Voilà, c'est son regard sur la consolation. Qu'est-ce que c'est la consolation pour Nietzsche? Et dans son regard sur la consolation, il y a, je crois, toute sa pensée.
Oui.
Et sa pensée, telle qu'elle s'exprime dans la façon dont il envisage la consolation, c'est que la consolation consiste à replonger dans le bas. La consolation consiste à être prêt à retourner à la vie, sachant que ce retour va se solder par de nouvelles blessures. Voilà.
Ce qui m'a frappé aussi dans votre approche de Nietzsche, c'est la lucidité, enfin le besoin de faire face au réel.
Oui.
Et là, je me suis demandé s'il n'y avait pas un réflexe de physicien aussi. Si vos origines scientifiques n'avaient pas joué un rôle dans cette...
Oui, c'est le rapport à la vérité.
Le rapport à la vérité, absolument. Dont on parlait il y a deux hier, jours. Oui, ou avant-hier. Oui.
Absolument.
Aller jusqu'au bout, quoi.
Oui, aller jusqu'au bout, quitte à se brûler, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment Nietzsche. Il faut, évidemment, Nietzsche, il y a plusieurs commentateurs de Nietzsche, dont notamment Jaspers, qui a beaucoup écrit sur lui, et qui met en garde, n'est-ce pas? Nietzsche n'est pas un modèle. Nietzsche va trop jusqu'au bout. Il se consume. Mais c'est une référence. C'est une référence morale.
Oui, c'est étonnant de penser à Nietzsche quand on a subi un deuil. On pense plutôt à Freud, à Deuil et Mélancolie. Mais enfin, en même temps, dans le livre que vous avez écrit, on voit très bien comment vous cherchez l'apaisement chez un auteur du désespoir.
Oui. Parce que précisément, le chemin qu'il indique, n'est-ce pas, Nietzsche, c'est l'instant, c'est-à-dire vraiment saisir la vie là où elle est, là où elle se présente, et retourner vers d'autres blessures. Finalement, c'est ça. On a un chagrin d'amour, on se sépare, on trouve un autre amour, cet autre amour ne pourra pas éviter d'autres blessures. Voilà, sans ça, on n'est pas dans la réalité. Nietzsche s'est retourné, et il a des expressions extraordinairement poétiques, quand il dit qu'il faut plonger pour aller au fond de la mer, chercher les coquillages multicolores. Ça dit tout.
C'est beau.
Ah, c'est magnifique.
C'est une grande poésie.
Grande poésie, ouais, c'est magnifique.
Alors après Nietzsche, vous passez à Van Gogh, qui a une grande importance aussi pour vous, à la fois pour la peinture. Je crois que vous avez chez vous d'ailleurs une reproduction ou quelque chose qui s'apparente à la chaise que Van Gogh avait dans sa chambre à Arles.
C'est une copie. Hein.
Une copie, oui, oui. Et c'est un drôle de livre, La chambre de Vincent. Je l'ai lu deux fois ou trois fois parce que, en fait, vous parlez de Van Gogh, mais vous parlez surtout de votre vie
en internat.
Donc ouais. C'est un livre qui commence sur Van Gogh, ouais, et qui est en fait un livre sur la vie en internat, un de plus, et sur votre père, votre relation à votre père, sur la mort de votre père, et aussi sur le suicide,
oui,
sur lequel vous avez des phrases d'ailleurs qui sont très belles, et qui, on voit que c'est un sujet qui vous interpelle, puisque vous écrivez « Si j'étais sans ton amitié, on me renverrait au suicide », écrit Vincent à Théo. Peut-être est-ce cela, je vous cite, le suicide. Une façon de ne plus être seul, un visa pour la non-solitude, une relation à l'autre garantie pour toujours, payée au prix fort. Mais quelle récompense ! On meurt, et du coup, on existe.
Ouais.
Métine Arditi, vous avez écrit ces phrases frappantes.
Hein. Ouais.
Paradoxales aussi.
Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas qualifié pour commenter d'une manière générale les suicides. Et il y en a évidemment qui sont motivés par toutes sortes de raisons différentes. Mais il est évident que certains d'entre eux sont actés précisément pour s'ancrer dans la vie pour toujours.
Oui.
On n'en ressort pas vivant,
oui,
mais on en ressort existant.
Oui. Oui, enfin, la nuance, évidemment, est difficile à saisir, parce que c'est... Le prix est cher à payer. Hein. Alors, c'est ce livre, ce petit livre qui est très fort, dans lequel il y a un peu de tout... Et qui vous caractérise, je trouve, très bien, parce qu'on est à la fois dans votre, voilà, dans la description de Van Gogh, de ces tableaux que vous allez voir au musée d'Orsay avec votre épouse. Vous allez manger une tarte à la rhubarbe après. Vous parlez de votre copain Muret avec qui vous étiez au collège, et puis en même temps, il y a toutes ces réflexions sur la vie, sur le suicide, et qui sont introduites par une phrase de Bernanos, qui là aussi vous définit beaucoup, car la suave enfance monte la première des profondeurs de toute agonie.
Voilà.
C'est oui. Ça la réponse, peut-être. En tout cas, oui, ça, une réflexion de plus, quoi, qui se rajoute.
C'est sûr que on est on est défini par les années d'enfance. C'est
oui.
Évident.
Oui. Ouais. Oui. Alors, les années d'enfance, bon. Évidemment, on en parlait de l'internat, elles vont hanter tous vos livres. On va en parler demain avec, avec les romans. Là, on parlait des essais, mais déjà, on s'approche des essais. D'ailleurs, là aussi, vous parliez tout à l'heure de Jeanne Hersch, que vous allez voir quand vous avez écrit le livre sur Machiavel, et vous lui demandez, je sais pas très bien, je vous ai donné le manuscrit. Visiblement, ça lui plaît qu'à moitié. Elle vous répond, vous lui dites, que dois-je faire, madame? Vous devez reconstituer de la pulpe, du janèche pur sucre. Elle aimait faire appel à des mots qui étonnaient dans la bouche d'une philosophe. Comment, madame? La réponse vient dans la seconde. Lisez un roman. J'en tombais à la renverse. Si j'écrivais des essais, c'est parce qu'il me semblait qu'il s'agissait là de la forme la plus élevée d'écriture. Les romans, c'était pour passer le temps. J'étais d'une rare bêtise, on est comme on est. Après quelques secondes d'hésitation, je me risquais à lui demander quel était son roman préféré. De nouveau, la réponse vint sans attendre, L'Idiot, de Dostoïevski. Cet échange a bouleversé ma vie.
Eh oui.
Et voilà. Et il a peut-être entraîné, vous a peut-être décidé à passer à l'écriture romanesque.
En tout cas, il m'a ouvert les yeux sur ma bêtise. Il était temps.
Oui, enfin, les essais sont quand même très forts. Et je trouve que ce passage, on voit comment se fait le passage de l'essai au roman, parce que finalement...
Ça s'est fait quasiment naturellement.
Oui, La Fontaine, c'était vraiment un essai, une première tentative, enfin c'est original. Machiavel, on ne s'attend pas du tout à la comparaison avec les évangiles, c'est une réflexion quasi philosophique. Ensuite, Nietzsche, c'est un deuil, voilà, surtout un deuil.
Une consolation.
Et puis Van Gogh, on est entre les deux. On bascule déjà dans le romanesque, et avec l'aide de Jeanne Hersch, vous y allez complètement. Juste un mot pour terminer, parce que je sais que vous m'avez dit que vous étiez en train de préparer un autre essai, donc vous y revenez quand même aux essais. Alors, je sais, pour mettre vos éditeurs, nos auditeurs en haleine, c'est votre prochain dictionnaire amoureux, qui sera un dictionnaire amoureux sur l'esprit français.
Oui.
Dictionnaire amoureux sur l'esprit français.
De l'esprit français, oui.
C'est gonflé quand même, hein, de vous lancer là-dedans.
Oui.
Vous avez du culot. Jamais un Français n'oserait écrire
oui,
ça.
Ça me terrorise.
Il faut être persan comme vous, turc, par adoption, par origine.
Je crois que c'est un peu pour cela qu'on m'a proposé de l'écrire.
Oui, oui. Ah, oui,
mais oui. C'est vrai que ça me terrorise.
Ah oui, ça je comprends ça. Mais on attend ça avec beaucoup de curiosité. Écoutez, en tout cas, merci Martine Arditi de cette première plongée dans votre œuvre littéraire, les essais. Et demain, nous attaquerons la partie, peut-être pas la plus importante, mais enfin une partie importante de votre œuvre, qui sont la partie romanesque, les romans. À demain, Métine Arditi.
À demain, Jérôme Clément.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Métine Arditi. À voix nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.